Première lettre de Paul à Timothée, au verset 18. Première lettre à Timothée, au verset 18. Mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que, conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes, suivant elles, le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, ayant perdu celle-ci, ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Je recommence, mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes suivant elles le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, ayant perdu celle-ci, ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne point blasphémer. Alors Paul dit à Timothée, il faut que tu combattes un combat juste. Paul ne parle pas des résultats à Timothée, qu'il faut que tu obtiennes tel ou tel autre résultat. Il dit, il faut que ton combat soit le bon, un combat pur, un combat juste. Avec Dieu, ce n'est pas une question de succès, une question de popularité, une question de nombre, c'est une question de pureté, c'est une question de justice, c'est une question de droiture. C'est pourquoi Paul dit, Timothée, il faut que tu combattes le bon combat et que tu gardes ta conscience pure, que ta conscience ne soit pas mêlée, que ta conscience ne soit pas troublée. Garde une conscience pure et en gardant une conscience pure, tu garderas aussi la foi. Parce que si tu n'as plus une bonne conscience, ta foi va périr. Et beaucoup ont fait naufrage par la foi. Naufrage par la foi, ça ne veut pas dire seulement arrêter de croire en Dieu. Naufrage par la foi, c'est épouser aussi des fausses doctrines que soi-même parfois on a critiquées autrefois. Naufrage par la foi, c'est changer la parole de Dieu. Naufrage par la foi, c'est commencer à revivre par la chair alors qu'autrefois on vivait par l'esprit. Naufrage par la foi, c'est commencer parfois à combattre les chrétiens alors qu'on est censé prier pour eux. Combat le bon combat, dit Paul à Timothée. Va jusqu'au bout. Vous savez, avant que Paul ne meure, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Les affaires de Dieu, ce n'est pas une question d'un succès temporaire. C'est une question d'aller jusqu'au bout. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut toujours connaître de grands succès, faire de grandes choses. D'ailleurs, Paul en avait fait de grandes choses. Beaucoup. Mais à la fin de sa vie, il a compris une réalité. Le plus important, c'est de tenir jusqu'au bout. Saül avait fait de grandes choses, mais à la fin de sa vie, il a chuté. Salomon a fait de grandes choses, mais à la fin de sa vie, il a dévié. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout, dans une conscience pure, pour hériter du ciel, pour que quand tu viens dans la présence de Dieu, dans l'éternité qui commence, Dieu te dise, entre dans la joie de ton maître, réjouis-toi, petit, réjouis-toi, mon enfant, parce que tu as été fidèle sur terre. Maintenant, tu vas vivre de la récompense réservée aux élus. Et quand on lit Pierre, on lit tous ces gens-là, nous avons cette constante-là. Il faut rester droit. Paul dit ailleurs, il faut combattre selon les règles. Il ne faut pas chercher les choses de la terre. Il faut être droit jusqu'au bout. Parce qu'après, c'est fini. Tu entres dans la maison de Dieu. Il n'y aura plus de recherche de succès, ni de recherche de victoire. Tu vis dans la victoire, tu vis dans la gloire, éternellement. À quoi ça sert de corrompre son âme pour les choses de la terre? Et nous allons lire 2 Rois, 2 Rois. Au chapitre 20. Bien-aimé, quand Jésus-Christ servait le Seigneur, il a fait certes des miracles en grande quantité. Il parlait avec autorité. Et un jour, une dame l'a loué en disant, « Heureuse le sein maternel qui t'a allaité. » Jésus a dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » La chose, ce n'est pas d'être épaté par mon éloquence ou par l'autorité que j'ai, disait Jésus. Mais le plus important, c'est de saisir le message que j'apporte. C'est que Dieu veut sauver tout homme. Et toi, le premier. C'est ça le plus important. Et que Dieu veut qu'on marche comme son fils Jésus. Jésus-Christ a donné sa vie. Vous savez, dans Jean, dans l'évangile de Jean, à un certain moment, il est question de choisir entre Jésus et un bandit, Barabbas. Et le peuple choisit Barabbas. Vous vous imaginez la douleur de Jésus. Entre Jésus, celui qui a nourri le peuple, celui qui a prêché la vérité, celui qui a pleuré pour les gens, celui qui a prié pour les gens, qui a guéri des malades, qui a fait des miracles, entre Jésus et Barabbas, Pilate demande au peuple, « Vous voulez qu'on fasse sortir qui ?» Le peuple dit Barabbas et crucifie Jésus. Mais est-ce que Jésus a dit dans son cœur, « Je vais arrêter la mission ?» Non. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait combattre selon les règles. La règle de son père, c'était qu'il donne sa vie pour les humains. Même si les humains étaient si méchants, Jésus est parti jusqu'au bout. Jésus aimait tellement son père qu'il est allé jusqu'au bout. Notre thème, c'est servir Dieu par amour. C'est important. Si tu veux aller jusqu'au bout, dès maintenant, commence à le servir par amour. Ne le sers pas pour une autre raison. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans une autre phase, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Tous m'ont abandonné, Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. » Les gens qui vont jusqu'au bout, ce sont les gens qui travaillent pour le Seigneur par amour. Et Jésus en faisait partie. Il a dit, « Père, je vais aller jusqu'au bout. Même si les gens pour qui je vais mourir ne m'aiment pas, me trahissent, moi j'irai jusqu'au bout. Parce que je t'aime et ta volonté, c'est que je me donne. Servir Dieu par amour. Nous lisons Ézéchias 2, l'histoire d'Ézéchias, 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint vers lui et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, mets ordre à ta maison. » Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Or, Ésaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je vais ajouter 15 années à tes jours. » Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et le Seigneur a guéri Ézéchias. Et nous arrivons au verset 12. En ce temps-là, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres avec un cadeau à Ézéchias, parce qu'il avait appris qu'Ézéchias avait été malade. Et Ézéchias, ayant donné audience aux messagers, leur montra son trésor, l'argent, l'or et les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison et dans tout son domaine. Puis le prophète Ésaïe vint vers le roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Et Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Et Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en demeurera rien de reste, dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras engendrés pour être eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Et Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sûreté pendant mes jours ?» Et nous passons au chapitre 21. Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il dressa des autels à Baal. Il fit une image d'Achéra, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit même des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que je mettrai mon nom. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il pratiquait la magie et les augures. Il établit des nécromanciens et des devins. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Et l'image taillée d'Achéra qu'il avait faite, il l'a mis dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi, d'entre toutes les tribus d'Israël, que je mettrai mon nom à perpétuité, et je ne ferai plus errer les Israélites hors de cette terre que j'ai donnée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à exécuter tout ce que je leur ai commandé, toute la loi que Moïse, mon serviteur, leur a commandé d'observer. » Mais ils n'obéirent point, et Manassé les égara, et leur fit faire pis que les nations que Dieu avait exterminées devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla par ses serviteurs les prophètes et dit, « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis de telles abominations, faisant pis que tout ce qu'ont fait les Amoréens avant lui, et qu'il a fait aussi pécher Juda par ses idoles, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je veux faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra parler, les deux oreilles lui en tinteront. » On s'arrête là. Manassé, c'était quelqu'un qui... C'était le fils qu'Ézéchias a eu pendant les 15 années que le Seigneur lui avait donné. Donc, lorsqu'Ézéchias est tombé malade, il a prié afin qu'il soit guéri. Mais la Bible nous dit bien que c'est Dieu qui a dit à Ézéchias de se préparer, de préparer sa maison, afin qu'il meure. La maladie d'Ézéchias, ce n'est pas une maladie liée à la vie de tous les jours, mais c'est une maladie préparée par Dieu pour sa mort. Mais Ézéchias refuse la maladie. Ézéchias dit à Dieu, « Mais Dieu, tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas me laisser mourir. » Donc, premièrement, Ézéchias prend cette maladie comme une injustice. « Je ne veux pas. » Et il dit à Dieu, « Je ne mérite pas cela parce que j'ai été droit. » Et c'est vrai. Ézéchias a été droit. Ézéchias fait partie des rois qui ont été les plus intègres des rois d'Israël. Il y en a environ 4 seulement et il en fait partie. Ézéchias a détruit les hauts lieux, il a détruit les statues, il a restauré le temple du Seigneur, il a fait de bonnes choses, il a restauré l'honneur de Dieu. Mais bien-aimé, la déviation s'installe petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Petit à petit, Ézéchias était devenu, commençait à profiter humainement de sa royauté. Et lorsque Dieu lui dit, c'est l'heure de mourir, Ézéchias refuse. Et il entre en contestation avec Dieu en attestant de toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies pour Dieu. Et vous savez, Dieu, quand on lui fait ça, il dit, bon, si tu le prends comme ça, ben d'accord, je te paye pour tout ce que tu as fait. Je te donne 15 ans. Si tout ce que tu as fait, c'est pour revendiquer aujourd'hui de vivre, alors que moi je veux que tu meures, eh bien, je te donne les 15 ans. On nous avait appris autrefois à faire ce genre de prière, mais lorsque nous lisons la Bible, on voit bien qu'on ne peut pas prier, dire à Dieu, j'ai été fidèle, j'ai été ceci, fais-moi cela. Non, on doit prier seulement au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau, à cause du sacrifice de Jésus, on ne peut pas brandir nos mérites, dire, Seigneur, moi j'ai été tout le temps honnête avec toi, j'ai été ceci, voilà, maintenant tu m'abandonnes. Non, ce n'est pas bon. On doit toujours prier au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a fait le plus grand sacrifice. C'est le seul sacrifice que Dieu agrée, parce que Jésus-Christ était sans péché. Eh bien, Ézéchias a réclamé. Bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs et il connaît l'avenir. S'il avait voulu qu'Ézéchias meure, il avait des raisons. Mais Ézéchias, puisqu'il a fait une sorte de chantage pour dire, mais j'étais servi honnêtement, il faut me payer en quelque sorte. J'ai beaucoup prié, comme certains font du chantage. J'ai beaucoup jeûné. J'ai été régulièrement à l'église. Alors il me faut tel don spirituel. Il me faut le mariage, il me faut telle chose. Il faut que ma femme change, il faut que mon mari change. C'est du chantage fait à Dieu. Alors qu'on doit prier toujours à cause du sang de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Eh bien Dieu dit, mais puisque tu en fais un problème, tes bonnes œuvres, puisque tu veux que tes bonnes œuvres te donnent le salut, eh bien je te donne 15 ans de plus. Et mais pendant ces 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un enfant, Manassé. Et Manassé, quand Ézéchias est mort, Manassé a pris le pouvoir. Et quand Manassé a pris le pouvoir, il a détruit tout ce qu'Ézéchias avait fait de bien. Toutes les bonnes œuvres d'Ézéchias. Détruit les statues, restaurer la gloire de Dieu, restaurer l'honneur de Dieu. Manassé a détruit tout cela. Donc Dieu démontre par là que les bonnes œuvres, lorsque elles n'ont pas, elles ne sont pas d'or, de diamants, donc de pierres précieuses ou d'argent, elles finissent toujours par se consumer. Puisque Ézéchias a utilisé ses bonnes œuvres qu'il avait accomplies, non pas par amour pour Dieu, il a utilisé ça pour faire un chantage à Dieu, ces œuvres-là, plus tard, se sont consumées. Bien-aimés, on peut toujours faire des bonnes œuvres pour s'attirer la sympathie des gens, pour s'attirer l'amour des gens, pour s'attirer toutes sortes de faveurs. Mais un jour ou l'autre, ces bonnes œuvres seront détruites. Les bonnes œuvres d'Ézéchias, peut-être à l'origine, c'était de bonne foi qu'il avait fait tout ça. Mais il a utilisé ces bonnes œuvres pour une histoire de chantage. Et par la suite, tout cela a été détruit. Ézéchias, c'était un homme intègre. Mais il a fini, petit à petit, par travailler pour son propre titre. Au début, il travaillait pour l'Éternel. À un moment, il a commencé à travailler parce qu'il était roi. Il a oublié qu'il devait travailler toujours pour l'Éternel, par amour pour Dieu. Bien-aimé, nous sommes tous des humains. Il arrive que par habitude, on commence à travailler parce qu'on est pasteur. Je dois préparer la prédication, je dois lire la Bible parce que je suis pasteur. On attend que je prêche, il faut que je lise la Bible. Tu ne lis plus la Bible parce que tu aimes la parole, mais parce qu'on attend que tu prêches. Tu ne lis plus la Bible parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois manger la parole, mais parce que tu veux défendre ton titre de chrétien. Pour te sentir bon chrétien, il faut que tu lises la Bible. Et ce n'est pas par amour pour Dieu, mais c'est pour que toi-même tu sois satisfait de toi. Et petit à petit, on perd l'amour pour Dieu et nous mourons spirituellement. Et beaucoup vont faire naufrage par rapport à la foi ainsi. Parce qu'il n'y a pas l'amour pour le Seigneur. quand Jésus-Christ a donné sa vie, c'était vraiment par amour. Parce qu'il donnait sa vie pour des gens qui le crucifiaient. Il servait le Seigneur par amour. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, avec les païens, j'ai été comme un païen, avec les juifs comme un juif, avec les grecs comme un grec. Dans le but de gagner même un seul, quoi, bien-aimé. Le grand apôtre Paul, qui a fait tant de miracles, mais ce n'était pas son problème. Son problème, c'était de continuer la mission du Seigneur jusqu'au bout. S'il fallait gagner une âme, s'il fallait qu'il se rase la tête pour gagner un juif, il se rasait la tête pour se conformer aux coutumes juives recommandées à l'époque. Ce n'est pas un péché, il se rasait. Tant que quelque chose n'était pas un péché, il le faisait. S'il fallait s'habiller comme un grec, il s'habillait comme un grec pour sauver ne serait-ce qu'un seul grec. Parce que sa mission, c'était de prêcher l'évangile pour sauver les âmes. Il dit, ma vie, je n'en fais plus aucun cas. C'est ma mission qui compte. Il aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Aujourd'hui, si beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de chrétiens ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils n'aiment pas vraiment le Seigneur, ils sont en train de faire des choses pour se sentir bon chrétien, pour se sentir serviteur. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Certaines difficultés les empêchent d'aller jusqu'au bout. Ils font naufrage, comme dit Paul, par rapport à la foi. Bien-aimés, tant qu'on ne sert pas Dieu par amour, on finira par faire naufrage, d'une manière ou d'une autre. Si Ézéchias a fait naufrage, si Salomon a fait naufrage, je ne dis pas que ni Salomon ni Ézéchias sont en enfer, mais ils n'ont plus été les mêmes Ézéchias, ils n'ont pas été les mêmes Salomon. Parce qu'à un certain moment, ils ont commencé à travailler en tant que roi et non pas en tant que des amoureux de Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur fortement. Vous croyez, bien-aimés, que c'est à la légère que Jésus-Christ dit que le premier commandement est le seul commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Quand on demande à Jésus quel est le commandement à suivre, quelle liste de choses à faire, il dit c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est qu'une conséquence du premier commandement. Ce n'est pas au hasard, bien-aimé. Ce n'est pas pour s'amuser que Jésus dit cela, parce que dans ce commandement-là se trouve le secret pour vivre une vie chrétienne satisfaisante jusqu'au bout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand Jésus-Christ hésitait à Gethsémané, ah, je souffre, je vais être crucifié. Ah, il dit, Père, si tu peux enlever cette coupe. Il dit, mais non, que ta volonté se fasse. Jésus-Christ est en ce moment-là, dans ce conflit-là. On ne parle pas de nous, là. Jésus-Christ était dans la relation avec son Père. Quand Jésus-Christ était dans ce conflit-là de son cœur, il n'est pas dit que Jésus-Christ, nous voyant nous perdre, il s'est ressaisi, il dit, va, je vais aller jusqu'au bout. Il est dit clairement, Père, que ta volonté se fasse. Là, l'amour pour son Père est intervenu. Il aimait tellement son Père qu'il s'est dit, je ne vais pas décevoir mon Père. Je l'aime beaucoup. Je vais aller jusqu'au bout. Dans Jean 13, il est dit que Jésus-Christ nous a tant aimés. Il a mis son amour au maximum. Mais quand il y a eu le conflit de cœur, quand il y a eu l'attaque à Gethsémané, c'est l'amour pour son Père qui l'a amené à dire, je vais jusqu'au bout. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu jusqu'au bout, il faut que tu l'aimes. C'est cet amour-là qui fera que quand tout sera rouge, tout sera noir, tu te dis, non, j'aime le Seigneur. Je ne peux pas le décevoir. Je vais aller jusqu'au bout. Bien-aimé, comme les Alan Yuan qui ont fait 22 ans en prison parce qu'ils aimaient le Seigneur. On le dit, mais il suffit que tu dises que tu ne crois pas en Jésus, on te sort. Il laisse 7 enfants et une femme. Il dit non, si je renie Jésus, je meurs. Bien-aimé, quand on aime quelqu'un, on se dit, non, mais si je fais ça, quelle est ma relation avec lui? Je l'aime, je ne peux pas faire ça. 22 ans en prison à cause de l'amour pour le Seigneur en Chine, bien-aimé. Il y a des chrétiens en Éthiopie qu'on met dans les conteneurs. Vous imaginez un conteneur dans un pays où il fait chaud. Dans un conteneur, une femme, des femmes, de fille. Dis, mais il suffit que tu dises, tu n'aimes plus Jésus, tu renies Jésus. Je sais qu'ici en Europe, beaucoup vont dire, je vais dire seulement de la bouche que je renie Jésus, mais dans mon cœur, je continue. Oh, bien-aimé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas dire, bon, je vais dire seulement. Mais non, si tu aimes quelqu'un, tu tiens son honneur. Tu sais que si je dis, je renie, les gens là vont dire, ah, on est plus fort que son Dieu. On l'a conduit à renier Dieu. Mais ces chrétiennes-là préfèrent rester en prison, dans un conteneur, plutôt que de dire, Jésus n'est pas Dieu, bien-aimé. Parce qu'elles aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu iras jusqu'au bout. Que tu aies ce que tu cherches ou pas, tu iras jusqu'au bout. Bien sûr, bien-aimé, si on demande aux gens aujourd'hui, on demande aux chrétiens, est-ce que tu aimes le Seigneur? Qui va dire, j'aime pas le Seigneur? Tout le monde va dire, j'aime le Seigneur. Et parfois, certains le disent avec éloquence, j'aime le Seigneur. Bien-aimé, mais nos œuvres, les manifestations de nos vies vont montrer réellement dans quel degré nous sommes. Je ne suis pas en train de dire... Tout ce que je dis là, ce n'est pas blanc-noir. Il y a des nuances, il y a des doses. Mais le Seigneur a dit de tout ton cœur la dose maximum. Mais malheureusement, la dose maximum, on ne la retrouve plus. Nous sommes dans des... On voit des doses à moitié. Mais ce sont des doses qui ne te permettront pas d'aller jusqu'au bout. Tu as besoin, j'ai besoin d'aimer le Seigneur au maximum. C'est ce que le Seigneur veut. Quand on voit aujourd'hui certains, lorsqu'ils ne prêchent plus, leur foi baisse. Donc pose-toi toi-même la question, mais quand je prêchais, j'étais fort. Mais maintenant, je ne prêche plus, ma foi baisse. Donc, quelque part, j'ai commencé à prêcher parce que c'était devenu mon métier. C'était plus parce que l'amour du Seigneur me conduisait à prêcher. Parce que prêcher, ce n'est pas seulement passer devant ici. Prêcher, c'est parler de la part du Seigneur. Et on peut parler au téléphone, on peut parler aux gens en groupe de deux, en groupe de trois. Et beaucoup de gens, on les manipule par les faux pasteurs, par l'histoire des prédications. On te pousse à prêcher et on crée l'orgueil de la prédication dans ton cœur. Et pour te manipuler, on te retire, on dit, frère, je t'envoie dans telle mission. Si telle mission, tu refuses cela, parce que tu as l'impression que c'est un compromis, on te retire la prédication. Et tu étais devenu déjà esclave de cela. Et quand deux semaines passent, un mois passe, tu ne prêches pas, tu reviens te faire corrompre par cet apôtre ou ce pasteur-là. Beaucoup de gens, dès qu'ils arrêtent de faire l'activité qu'ils faisaient, ben, ils baissent spirituellement. Alors, pose-toi la question. Quand j'ai prêché, quand je chantais, quand je travaillais, est-ce que j'ai commencé pas à le faire pour moi-même, pour défendre mon titre, pour défendre ce que j'avais comme poste? Est-ce que je le faisais encore par amour? Parce que l'amour ne disparaît pas par la cessation d'une activité. L'amour continue. Donc même si un bâtiment se casse, aujourd'hui une bombe peut descendre ici, on va voir la vie spirituelle de certains. Si ta vie spirituelle baisse, alors pose-toi la question, est-ce que ce n'était pas le bâtiment qui me facilitait la tâche? En réalité, est-ce que je ne venais pas pour le bâtiment? Quand tout ce que je dis, ce n'est pas blanc-noir, c'est une question de dose. Donc il y a une dose de la chose dans ta vie. Pose-toi la question. Lorsque, bien-aimés, nous voyons que certains à l'église sont tranquilles, calmes, joyeux, souriants, et que chez eux, ils sont différents, on se pose la question, est-ce qu'ils aiment vraiment le Seigneur? Ou bien, ils le font par religiosité. Donc, j'ai une religion, je dois aller dans un bâtiment qu'on appelle l'église, et je viens là-bas, je prie, Et quand ils rentrent chez eux, ils sont différents. Alors que Dieu est autant ici que là-bas, puisque la gloire du Seigneur est partout. Dieu voit tout. Dieu le voit ici, Dieu le voit chez lui. Mais il a deux comportements différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il vient ici, il ne vient pas par amour pour Dieu. Parce que Dieu est aussi dans sa maison. Si c'était par amour pour Dieu, il serait le même ici et là-bas. S'il est différent, c'est parce qu'ici, il vient par religiosité. Même s'il aime aussi un peu le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas blanc-noir, donc c'est une question de dose. Il y a une implication du bâtiment dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas par amour. Parce que par amour, même dans ta chambre, Dieu est là. Par amour, partout, Dieu est là. À la rue, Dieu est là. Pendant que tu es peut-être en train de regarder un match quelque part, Dieu est là avec toi puisque tu es chrétien. Et là-bas, tu te permets d'injurier, mais ici, tu es différent. Donc, on se pose la question, est-ce que tu sers Dieu par amour? Ce n'est pas par amour à 100%, parce que tu n'es pas le même partout. Si c'est par amour, partout tu seras le même. Partout tu auras le même respect pour sa nature, la bonté, l'amour, la patience. Bien aimé, il y a d'autres cas, certains lorsqu'il y a des épreuves, notamment financières, leur comportement change. Lorsqu'il y a des difficultés financières, leur comportement change. Alors on se pose la question, il priait Dieu parce que Dieu lui donnait ce qu'il fallait. Ou est-ce que c'était vraiment par amour? Vous savez, quand Job, on lui a tout pris, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Parce qu'il servait Dieu par amour et non pas pour des intérêts matériels. Et beaucoup, lorsqu'ils ont un problème, des problèmes matériels, des problèmes professionnels, leur attitude change. Ils baissent dans la foi. C'est en ce moment-là qu'il faut se poser la question, pourquoi je priais Dieu? Aujourd'hui, il faut décider de prier Dieu par amour et non pas à cause des intérêts matériels. Même si officiellement, personne ne peut sortir de sa bouche, c'est par intérêt matériel. Mais Dieu permettra des événements qui prouveront cela. Qui prouveront que petit à petit, les intérêts matériels sont devenus un élément important dans ta relation avec Dieu, dans ta vie. Or, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, toute ta vie, c'est pour le Seigneur. Donc, si les problèmes matériels diminuent ta foi, commencent à te faire naufrage, te faire entrer dans le naufrage, pose-toi la question, est-ce que j'aimais vraiment le Seigneur? Est-ce que c'était à 100%? C'est ça la question, bien-aimé. Si ta vie commence à être spirituellement faible à cause des problèmes matériels, pose-toi la question de ta relation, de ton amour pour le Seigneur. Il y a d'autres épreuves. Ça peut être comme une sœur qui m'avait dit, « Pasteur, j'ai attendu 2 ans, le mari ne venait pas. C'est pourquoi je suis parti chercher un peu dans le monde. » Ah, mais là-bas, ça va échouer. Tu vas revenir encore 2 ans après. Tu attends 1 année et demie, ça ne marche plus. Ça ne vient toujours pas. Tu n'irais pas encore tenter là-bas. Or, dans le monde, c'est les aventures. Les aventures, par définition, il n'y a pas d'issue. Connue à l'avance. Tu reviens encore. Et là, tu vas perdre 10 ans comme ça. Au lieu d'être ferme avec Dieu, et de s'attendre à lui et de le servir par amour. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Toi, commence par aimer Dieu comme des délices, et lui s'occupera du reste. Et beaucoup sont freinés comme ça à cause d'autres épreuves. La Bible nous montre que la femme d'Abraham, jusqu'à 80 ans, n'avait toujours pas d'enfant, mais elle aimait toujours le Seigneur. Ce n'était pas pour un intérêt, c'était parce qu'elle aimait le Seigneur, bien-aimé. Pourquoi toi tu pries? Pourquoi toi tu sers le Seigneur? Est-ce par amour? Si c'est par amour, alors il y aura la constance dans ta vie. Bien-aimé, il y a d'autres réalités qui permettent de voir que l'amour pour le Seigneur n'est pas vraiment ce qu'on pensait, quoi. Il y en a qui viennent prier que lorsqu'ils ont des problèmes. Là, c'est le coup de fil au pasteur, c'est le rendez-vous, c'est je vais faire un tour à l'église, peut-être Dieu va parler. Ah. Ils sont toujours dans les peut-être, Dieu va parler. Mais non, il faut que Dieu parle chaque jour. Et comment Dieu va parler chaque jour? Si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est clair, bien-aimé. Pose-toi la question, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Il y en a même qui avouent ça, pasteur, c'est vrai, je viens te voir seulement quand j'ai des problèmes. Oui, mais il faut changer. Il ne faut pas seulement avouer. Il ne faut pas croire que... vous savez, il y a des proverbes qu'on a mis dans notre tête, mais ça ne marche pas avec la Bible. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Non. Avec Dieu, il faut se repentir. Il faut décider que je ne tomberai plus. Voilà. Si tu veux être pardonné totalement, il faut se repentir. C'est-à-dire décider de ne plus commettre le même péché. Donc, ne pas, bien-aimé, venir chercher le Seigneur qu'en cas de problème. Il veut une vraie relation d'enfant à père. Une relation d'amour, bien-aimé, sans intérêt. Il y en a qui se découragent à cause du manque de résultats. Oh, je suis pasteur, je suis prédicateur. Quand je prêche, les gens ne réagissent pas. Il n'y a personne qui ne vient me dire que c'était bien. Ou l'église n'évolue pas, le nombre n'augmente pas. Je suis découragé. Oh, mais toi, tu servais pour que le nombre augmente? Ou bien tu servais par amour, par obéissance à Dieu? Tu servais pour qu'on te félicite dans tes prédications? Ou bien tu prêchais parce que le Seigneur a mis un message dans ton cœur que tu déverses par amour pour Dieu? Bien-aimé, vous croyez que ces prophètes-là qui osaient aller dire à un roi que roi, ce que tu fais là est mauvais. D'ailleurs, Dieu va te juger. Bien-aimé, allez le faire aujourd'hui dans les pays dictatoriaux. Vous vous retrouvez, près des crocodiles. Hein? Mais ces prophètes-là avaient le courage d'aller voir un roi, dire, roi, ce que tu fais là est dangereux. C'est mauvais. D'ailleurs, Dieu va juger tes enfants. Bien-aimé, mais dis-le seulement à un homme normal comme nous ici, que Dieu va juger tes enfants. Bien-aimé, tu vas voir la réaction. Hein? Mais eux, ils allaient dire ça carrément à un roi, sachant que les rois de l'époque avaient tout pouvoir. Pouvoir de mort et de vie sur toi. C'est qu'ils aimaient tellement Dieu qu'ils ne pouvaient pas laisser cacher la vérité dans leur cœur. C'est par amour pour Dieu. Si tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu ne peux pas accomplir le rôle de prophète. Tu ne peux pas. Parce que c'est des risques de mort. Aujourd'hui, quand on dit prophète, on voit les gens qui disent, tu as 100 euros dans ta poche, Dieu veut 50. On voit les gens qui disent, tu seras grand apôtre dans 5 ans, tu seras guéri. Non, les vrais prophètes, c'est ceux qui redressaient les gens, les ramenaient à Dieu. Les Jonas, il va à Ninive, il dit, Ninive, si tu ne te répands pas, dans 40 jours, ça sera détruit ici. La ville sera détruite. Les vrais prophètes apportaient le message de purification, de redressement. Maintenant, il pouvait se faire qu'ils parlent aussi de l'avenir. Mais le boulot, ce n'est pas de parler de l'avenir. Le boulot, c'est de remettre les gens sur la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Parce qu'ils avaient l'amour pour Dieu. Et donc, quand quelqu'un se décourage parce qu'il n'y a pas de résultats, c'est que ça veut dire qu'il travaillait, il est pasteur pour les résultats. Il cherche que le nombre augmente. Il ne travaille pas par amour pour Dieu, par obéissance à Dieu. Mais son désir à lui maintenant, c'est le résultat, l'efficacité. Il y en a qui disent l'efficacité. Non, mais le but, quand on sert Dieu, ça ne doit pas être pour l'efficacité, ça ne doit pas être pour le résultat. Ça doit être par amour pour lui. Parce que lui, il a laissé son fils mourir à la croix pour nous. Et nous, en reconnaissance, on s'offre aussi. On offre notre vie au Seigneur. Et lui, en lui offrant notre vie, lui décide. Toi, tu seras prédicateur. Toi, tu seras, musicien. L'autre sera celui qui va nettoyer la salle. Et donc, tous ces services-là sont une offrande au Seigneur, une offrande d'amour pour le Seigneur. Maintenant, le Seigneur nous promet dans la parabole des talents qu'il y aura toujours des résultats. Les gens qui avaient travaillé avec les talents qu'on leur avait donnés avaient produit le double. Il y aura toujours les résultats. Le Seigneur s'occupe des résultats. Il nous demande, nous, de nous occuper de notre cœur, que nos sacrifices soient de bonne odeur, que ce soit par amour. C'est ça que lui, il cherche. Il ne cherche pas les résultats parce que c'est lui qui accomplit les résultats. Qui a déjà créé des fruits sur un manguier ou bien sur un oranger? Malgré tout ce qu'on peut faire de manipulations génétiques pour que le fruit sorte, c'est Dieu qui fait sortir ça. Bien-aimé. Alors, laissons Dieu faire. Je n'ai jamais vu un arbre, un pommier. Le matin, il y a l'agriculteur qui vient, il dépose les pommes sur le bout pour qu'après les gens ramassent et cueillent. Non. Même l'agriculteur retrouve que les pommes sont sorties. Qui a fait sortir ça? C'est Dieu. Le résultat, qui va faire sortir ça? C'est Dieu. Toi, qu'est-ce qu'on te demande? C'est de semer. De s'aimer avec amour, de s'aimer avec foi qu'il y aura le résultat. Après, tu ne t'en occupes pas. D'ailleurs, il y a une parabole dans Marc 4 qui nous en parle. La parabole parle de quelqu'un qui sème, qu'il dort, qu'il arrose, qu'il n'arrose pas, qu'il soit éveillé en regardant. Quoi qu'il fasse, la graine produit d'elle-même une plante, la plante grandit et produit des fruits. Donc même s'il dormait, même s'il arrosait, même s'il faisait rien, eh bien, ça va se faire parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Les résultats, quelqu'un d'autre s'en occupe. Nous, on nous demande de semer avec amour pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il nous est demandé. Nous ne devons pas chercher les résultats, chercher le nombre. On sera piégé, bien-aimé. Le diable nous tiendra. Il y a des pasteurs, avant d'accepter une invitation, il faut qu'on lui dise le nombre qu'il y a. Il y en a qui exigent au minimum 1000 personnes dans la salle. Ils sont déjà piégés par l'ennemi qui va remplir la salle des boucs. Et à quoi ça sert? Dieu veut une vraie transformation. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu ne demande pas au pasteur de faire de nombre. Il demande au pasteur de faire des disciples, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ. Bien-aimés, des gens comme Paul, à la fin de leur vie, n'avaient que quelques disciples. Jésus lui-même, à la fin de sa vie, qui était avec lui? Quelques disciples seulement qui avaient compris. À un moment, tout le monde avait fui. Il n'est resté que les 12. Jésus dit, pourquoi vous restez? Il a dit, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on t'a compris, on reste avec toi. Les autres étaient venus pour le succès, pour les miracles et autres. Mais nous, on sait que c'est chez toi que se trouve le salut. On a compris ces choses-là. Bien-aimé, le but, ce n'est pas de faire du nombre, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que Jésus, quand il mourait à la croix, c'était pour sauver le voleur à côté? Non, il mourait par amour pour l'humanité, par amour pour son Père. Et c'est le Seigneur, par son esprit, qui produit une âme à sauver à côté de Jésus-Christ. Nous devons le faire les choses par amour, bien-aimés. Par amour. Là aussi, on peut découvrir qu'on a des problèmes par rapport à l'amour pour le Seigneur lorsqu'on se défend. Lorsqu'on passe son temps à se défendre ou bien à vouloir avoir raison sur des choses. On peut toujours se défendre, mais passer son temps à se défendre, ce n'est pas bon. Ça prouve qu'on veut à tout prix paraître bien. On peut toujours discuter et émettre des avis. Mais passer son temps à s'imposer pour convaincre, ce n'est pas bon. Notre objectif, ce n'est pas de paraître bien. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, « Dans la bonne comme dans la mauvaise réputation, nous servons le Seigneur. » Le but, ce n'est pas d'avoir une bonne réputation. Le but, c'est de prêcher le Seigneur et d'avoir un bon témoignage. Le témoignage, ça se juge à travers ce que tu fais. Par contre, tu peux avoir la mauvaise réputation par rapport à ce que tu n'as pas fait. La mauvaise réputation peut toujours venir par incompréhension. Mais le témoignage, c'est ce que tu as fait. Les gens voient ce que tu as fait. Mais on peut toujours avoir la mauvaise réputation, comme Jésus avait à un certain moment la mauvaise réputation. On disait qu'il y avait un démon. Mauvaise réputation. Mais c'est faux, bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas prouver ça par les faits. Mais le bon témoignage était là. Il avait guéri les malades. Il n'avait fait aucun péché. Lui-même dit dans Jean 8, 46, « Qui peut me convaincre des péchés ?» Ça, c'était son bon témoignage. La réputation, eh bien, on préfère sortir le brigand plutôt que Jésus. C'est pas grave. Ça prouve qu'il est plus mauvais que le brigand. Ça, c'est la mauvaise réputation. Ça peut arriver. Mais que dans la bonne ou la mauvaise réputation, qu'on ne cherche pas à se défendre, qu'on ne cherche pas à se recommander soi-même. L'apôtre dit dans 2 Corinthiens 10, 17, que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. On doit laisser Dieu faire, parce que Dieu est tout puissant. On ne doit même pas chercher à paraître bien. On n'a qu'à faire son travail. On ne doit pas chercher à ce que nos prédications soient encensées. On doit prêcher. On doit dire ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Que ça touche, gloire à Dieu. Ça ne touche pas. On prie, Seigneur, nous voulons que les âmes soient sauvées à travers les prédications. Mais on ne doit pas prier, Seigneur, nous voulons que notre prédication ait un impact. Non! On doit prier, Seigneur, quand les gens vont écouter la parole, qu'ils soient touchés, soient transformés. On ne parle pas de soi-même, mais on parle de la parole de Dieu. Nous ne devons pas, bien aimés, nous faire piéger par l'histoire de vouloir se défendre à tout moment, vouloir avoir raison. Il y en a qui se défendent et qui cherchent à avoir tellement raison qu'ils détruisent. Parce que quand tu cherches à avoir tellement raison, tu vas commencer à parler aux gens à gauche, à droite, pour essayer de convaincre le maximum. Tu vas commencer à parfois mentir pour convaincre. Parce que tu veux avoir raison. Non, bien-aimé. Le Seigneur est tout-puissant. Il voit tout. Lorsqu'on est dans un débat de doctrine, lorsqu'on est dans un débat quelconque, le Seigneur sait convaincre dans les cœurs. Vous savez, Jésus-Christ, mais c'est les soldats qui l'ont crucifié. Les soldats se sont moqués de lui. Mais qui est-ce qui ont dit quand Jésus-Christ est crucifié, quand il est mort? Qui a parlé? C'est un soldat. Il a dit, cet homme-là était réellement le Fils de Dieu. Bien-aimé, Dieu convainc dans les cœurs. Ne cherchons pas la conviction qui vient de l'apparence comme ça, devant tout le monde, on crie, ah, c'est lui, le champion. Non, Dieu va faire que les gens, même s'ils crient, c'est lui le dernier, il va faire que dans leur cœur, ils reconnaissent que c'est toi, le véritable. C'est le cœur qui compte. Dieu convainc dans les cœurs. C'est ça qui compte. Ne cherchons pas à avoir à tout prix raison visiblement. Même si on a un tort visiblement, même s'il y a une mauvaise réputation, comptons sur Dieu qui convainc les cœurs. Acceptons de passer pour mauvais, parfois. Parce qu'il y a des fois où on veut passer tellement bon qu'on va détruire. On va vouloir tellement convaincre les autres que certains sont mauvais qu'on va détruire. Finalement, est-ce qu'on aime Dieu? On n'aime pas Dieu. Dieu veut que tout le monde prospère. Nous, en détruisant, est-ce que les gens prospèrent? Ils ne prospèrent pas, bien-aimé. Pose-toi la question, est-ce que mon comportement fait prospérer l'humanité? Est-ce que ça fait prospérer l'Église du Seigneur? Pose-toi la question. À force de vouloir avoir raison, tu risques de détruire. Et là où tu te poseras la question, est-ce que je n'ai pas cherché à me défendre plutôt que à aimer Dieu? L'amour pour Dieu va te pousser à faire quoi? À te sacrifier. Se sacrifier, ça ne veut pas dire nier la vérité. Se sacrifier, ça veut dire la vérité et rester pur, rester droit. Maintenant, en adoptant des méthodes pures, des méthodes de droiture, ça donne l'impression que tu ne tonnes pas, quoi. Tu ne parles pas fort. Et les autres qui adoptent des mauvaises méthodes, ça donne l'impression qu'ils parlent fort. Et tu as envie de les imiter. Non, Dieu dit, sacrifie-toi. Tu as déjà dit la vérité. Maintenant, laisse-toi être humilié. Ayant comme tort, laisse Dieu convaincre après dans le cœur. Ou dans l'avenir. C'est ça, bien-aimé. Le fait que certains veulent arrêter de servir Dieu à cause des épreuves, à cause des difficultés, pose-toi la question, est-ce que tu aimais vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimais vraiment le Seigneur? Beaucoup disent, ah, moi j'arrête. Oui, mais tu arrêtes de servir Dieu. Parce que un enfant est mort. Tu arrêtes de servir Dieu. À l'époque, quand j'étais dans la région parisienne, je venais du Maroc. Première église, l'église meurt. Deuxième église, elle meurt. Donc, beaucoup de chrétiens disaient, bon, nous, on arrête ces choses-là de prier parce que les églises ne tiennent pas. Et il y en a qui disaient, on retourne dans le catholicisme, dans l'antre du diable. Est-ce que tu vas te laisser tomber dans le naufrage parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des épreuves? Tu retournes carrément dans le catholicisme, là où il y a les idoles, là où on se prosterne devant des humains. Non, tu n'aimais pas vraiment Dieu. Si tu aimais Dieu, même si ça ne va pas dans une église ou dans beaucoup d'églises, tu vas chercher Dieu à travers ta Bible. Tu vas chercher Dieu dans la prière pour dire, Seigneur, que dois-je faire? Et quand j'étais dans la région parisienne, je m'étais inquiété. On peut s'inquiéter, mais on ne doit pas rester dans l'inquiétude. Je m'étais inquiété du fait qu'il n'y avait pas d'église. Et j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur me donne Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec discernement et sagesse. Je me suis dit, il y aura toujours un endroit pour moi. Quel que soit ce qui arrive, il y aura toujours un endroit pour moi. Parce que Dieu est vivant. Je ne crois pas aux églises, je crois en Dieu. L'amour que j'ai, c'est pour Dieu. Et maintenant, dans cet amour, Dieu peut me rassembler avec d'autres frères et sœurs. Mais d'abord, c'est pour Dieu. Ma foi ne peut pas baisser parce que les églises deviennent mauvaises. Ma foi est en Jésus, est en Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et beaucoup, en quelque sorte, veulent sauver leur vie. Parce que tout ce que je cite là, finalement, c'est quoi? Ça nous concerne soi-même. Dès qu'on est visé, dès qu'on se sent touché, dès qu'on se sent en retard, dès qu'on se sent ne pas produire des résultats, on n'est plus bien. En réalité, on veut sauver sa vie. Et Jésus a dit, celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre, la retrouvera. En réalité, on se soucie de soi-même. Je n'ai pas beaucoup de résultats en prêchant. Je n'ai pas beaucoup de résultats en tant que pasteur. Je n'ai pas beaucoup de résultats ceci. J'ai trop de difficultés. Mes parents ne se convertissent pas. Pourtant, ça fait longtemps que je prie. Ainsi de suite. Toutes sortes de raisons. Finalement, quand on voit bien, c'est lié à toi-même. En réalité, ton problème, c'est toi. Et maintenant, tu veux en faire un problème de Dieu. Faire comme si Dieu devenait incapable parce que toi, tu sembles avoir des problèmes. Alors que peut-être tu n'as même pas de problème, c'est le chemin de Dieu. Ézéchias n'avait pas le problème. C'est Dieu qui avait décidé qu'il meure. Ce n'était pas un problème. Lui en a fait un problème. Je ne veux pas mourir. Et c'est devenu comme si Dieu lui faisait une injustice. Et beaucoup d'entre nous se comportent comme s'il y avait injustice. Mais Dieu ne change pas ma femme. Dieu ne change pas mon mari. Ils en parlent comme d'une injustice. Ce n'est pas une injustice. Peut-être que tu es tellement dur. Peut-être que tu as un problème d'orgueil qui passe par un brisement à travers un mari ou une femme. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas d'injustice. Ézéchias a parlé comme si Dieu était devenu injuste. Et deuxièmement, Ézéchias a parlé parce qu'il devait se dire, mais dans mon entourage, parce que si c'est son fils de 12 ans l'a remplacé, dans mon entourage, je ne vois pas qui va me remplacer. Il faut que je vive encore. Et donc, tu peux te dire aussi, non, je suis encore utile, pourquoi mourir? Tu veux sauver ta vie. Tu peux te dire, mais comme certains disent, oh, si vraiment ma femme priait comme moi, je serais loin, quoi. Si vraiment mon mari priait comme moi, je serais loin. Non, c'est toi le problème. C'est toi qui as le Seigneur, c'est toi le problème. Cherche le Seigneur, bien-aimé. Cherche le Seigneur. Le Seigneur est disponible. Ah, c'est mes enfants qui me freinent. Non, c'est toi le problème. C'est un tel qui me freine. Il y en a qui disent, oui, il n'y a pas l'amour entre les frères et sœurs, mais bien aimé, toi tu es qui? Frère ou sœur? Arbre ou bien frère ou sœur? Tu es frère aussi, tu es sœur. Il n'y a pas l'amour, donc c'est toi qui n'as pas l'amour. Dieu piège les gens. Hein? Au milieu de frères et sœurs, il n'y a pas l'amour, c'est toi qui n'as pas. Parce que la Bible dit, si Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est simple. C'est à toi de manifester l'amour parce que tu en as. Comme tu critiques les autres qui n'en ont pas, toi tu en as, eh bien manifeste. Et ce que tu as semé, tu récolteras. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour, bien-aimé. On fuit toujours nos responsabilités. On veut toujours considérer les autres comme responsables de notre problème. Bien-aimé, moi j'étais dans une église qui ne croyait même pas aux dons spirituels. Une église que beaucoup d'entre nous appelleraient de froide au Maroc. Une église sans pasteur, qui ne croyait pas aux dons spirituels. Il n'y avait qu'un seul frère qui croyait à ça et qui manifestait cela. À part lui, personne. Mais moi, j'ai lu dans la Bible que ça existe. J'ai dit, Seigneur, j'aspire à ces dons-là. Dans cette église-là, lors d'une veillée, vous savez, nos veillées, aujourd'hui, les gens d'ici s'en moqueraient. Parce qu'au milieu de nos veillées, là-bas, on mangeait. Quoi. Donc, à un moment, donc, on arrête la veillée, on mange un peu de gâteau et puis on recommence encore à prier. Il y a des gens qui s'en moquent, mais ils ne sont pas spirituels, ils mangent, ce n'est pas grave. Mais bien-aimé, c'est dans cette veillée-là que la puissance d'en haut est tombée sur moi. J'ai parlé en langue, bien-aimé. C'est dans cette église-là froide, d'étudiants, là où il n'y avait pas un grand bishop pour venir m'imposer les mains. C'est dans cette église-là que j'ai parlé en langue, bien-aimé. C'est dans cette église-là que 60% de ce que je suis, je tiens ça de cette église-là. Où il n'y avait pas de pasteur, mais où moi j'aimais le Seigneur. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Là où je me suis converti à 100%, Dieu m'a donné le maximum. Et les gens ne savaient pas. Les gens voyaient seulement comme ça, mais ne savaient pas ce que Dieu faisait déjà dans mon cœur. Parce que je l'aimais. J'avais compris qu'avec lui, il faut l'aimer à 100%. Dès ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je ne pouvais pas dire, mais tiens, l'église est froide, c'est pour moi, parce que moi, je n'ai pas le don de parler en langue. Non, moi, je savais que Dieu était vivant. Dieu est vivant, bien-aimé. Ne fouillons pas nos responsabilités. Dieu est vivant. Tout ce qui t'amène à t'arrêter, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas ta vie que tu veux sauver? Est-ce que ce n'est pas ton intérêt que tu défends? Est-ce que tu défends vraiment l'intérêt du Seigneur? Est-ce que le Seigneur s'est arrêté quand il a vu qu'on a préféré Barabbas? Est-ce que le Seigneur s'est arrêté quand on le crucifiait? Non, parce que son intérêt à lui, c'était de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'intérêt d'un pasteur, c'est de faire que les gens grandissent spirituellement. Même si après, parce qu'aujourd'hui, comme on a appris en Hollande, il y a des gens qui ont, des pasteurs qui ont prié pour un autre, pour le reconnaître pasteur. Ils ont dit, nous prions pour toi, tu deviens pasteur, on te reconnaît pasteur, mais tu ne nous dépasseras jamais. Mais bien-aimé, non. Non, bien-aimé, nous devons, même si on doit enseigner les gens, on doit prier pour eux. Même si après ils ne reconnaissent pas, ce n'est pas notre problème. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous ne me reconnaissez pas, mais c'est vous qui êtes la preuve que je suis un vrai apôtre. Parce que ce que vous êtes, c'est moi qui ai bossé pour cela. Mais même si vous ne me reconnaissez pas, vous-même, vous vous trahissez parce que le courage, la connaissance que vous avez pour me résister ne vient pas de vous parce que vous, vous êtes des païens, vous ne connaissez rien du tout. C'est clair, bien-aimé. On ne doit pas chercher à se protéger contre une quelconque trahison. Non, on doit être libre. Enseigner, dire toute la parole, prêcher tout ce qu'il faut. Les gens prennent cela. Si après ils utilisent la même chose pour vous combattre, ce n'est pas grave. Continuons toujours à prêcher, à enseigner, à faire confiance et à aller de l'avant. Parce que si on ne fait pas, on ne fait pas ça, si on ne fait plus confiance parce qu'on a été trahi, si on ne fait plus confiance parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, les gens ne t'ont pas reconnu, tu fais le jeu de l'ennemi. Le Seigneur veut qu'on ne soupçonne pas le mal, qu'on avance. Bien-aimé, c'est très important. Le Seigneur lui-même sauvera notre vie. On ne doit pas chercher à sauver sa vie. Quand on veut sauver sa vie, on la perd. Bien-aimé, on doit aimer le Seigneur au point de donner notre vie pour lui. Et donner sa vie, c'est du concret, bien-aimé. C'est du concret. C'est accepter les injustices, bien-aimé. en restant pur. Bien aimé, si on ne sert pas Dieu par amour, ça finira par la mort. Toujours. Toujours. Et cet amour, ça vient d'où? Ça vient de l'amour qu'il a pour nous. Beaucoup ne savent pas comment Dieu nous aime. Si tu savais comment Dieu t'aimait, tu seras rempli tellement de paix et de joie que tu ne pourras manifester que l'amour. Si tu savais, si nous savions vraiment comment il nous a sauvés, d'où il nous a tirés, nous-mêmes on était mauvais des pécheurs, on sera rempli tellement de reconnaissance qu'on ne pourrait manifester que l'amour. Que l'amour. Parce qu'on sait d'où on vient. C'est parce que parfois on ignore cela. 1 Jean 4, 19 le dit. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Moi, quand je vois Jésus, c'est pourquoi le livre de Corinthiens dit, nous qui observons Jésus, nous sommes transformés dans la même image. Quand je vois Jésus-Christ être qu'on préfère Barabbas à Jésus, et Jésus tient, j'ai dit non, non, ce n'est pas possible. Tout cela pour moi. Alors pourquoi pas moi, je tiendrai pour les autres. Quand les gens parfois me disent merci pour une prière, moi je dis, mais bien-aimé, moi, Dieu a fait plus. Il a fait que son fils meure pour moi. Ne me remercie pas, remercie le Seigneur. Bien-aimé, quand on aime le Seigneur, et parce qu'on a reçu son amour, on ne peut que pardonner, quoi. On ne peut qu'aimer les autres. On ne peut qu'avancer, quoi. Parce que c'est l'amour qui te propulse. Tu es bien dans l'amour. L'amour, c'est une belle atmosphère. Et lorsque il y a quelque chose qui vient gâcher, une mauvaise odeur qui vient gâcher, ça gâche tout, quoi. C'est pas bon. Et on veut continuer dans cet amour-là, bien-aimé. Recevons l'amour du Seigneur. Souvenons-nous de tout ce qu'il a souffert pour nous. Il s'est offert entièrement pour nous. Et quand on reçoit cet amour, nous devons répandre cet amour. Et cet amour nous conduira, bien-aimés, à obéir à la parole, à obéir à Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous devons faire, pas parce qu'on a tout compris, pas parce qu'il n'y a aucun problème, mais nous devons faire ça par obéissance. Ce n'est pas parce qu'on est totalement dans la joie, mais tu le fais parce que tu sais que si tu ne le fais pas, ça va attrister le cœur du Seigneur. Alors je vais faire parce que c'est écrit dans la Bible. Je vais faire parce que j'aime le Seigneur. Je vais obéir à sa parole. Vous savez, l'amour est illogique. La logique, c'est la vengeance. La logique, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais l'amour, c'est illogique. Aimer quelqu'un qui te persécute, c'est illogique. On doit s'habituer à ce côté illogique de l'amour. Il faut servir à quelqu'un bien-aimé le plat qu'il aime. Dieu aime l'amour. Il aime l'obéissance. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne pratiques pas sa parole. Même si en pratiquant, c'est comme si tu devenais inefficace. Bien-aimé, tu vas être un pasteur, tu ne fais pas la publicité. C'est comme si tu es inefficace. Tu vas être un chantre, tu ne fais pas la publicité. Un musicien, tu ne fais pas la publicité. C'est comme si tu paraissais inefficace. Mais toi, tu es dans la vérité et dans l'amour. Ça paraît inefficace, mais c'est puissant en esprit. Il faut servir à quelqu'un le plat qu'il aime. Vous savez, il y a des gens qui veulent beaucoup de sel dans sur le poisson. Je dis, mais non, le sel, c'est dangereux contre ça produit quelle tension? Hyper ou hypo? Hyper. Le sel, il y a l'hypertension. Je dis, mais moi, mon poisson, je veux que ça soit salé. Sers-moi ce que je veux, bien-aimé. Nous devons servir à Dieu ce que lui, il veut. Pas ce que nous trouvons logique. Tu viens, oui, mais non, mais on a enlevé un peu de tomate parce que... Mais non, mais monsieur, moi, je suis italien, il faut la tomate. Bien-aimé. Il faut servir à Dieu ce que lui, il veut. Ce que lui, il veut, c'est ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimé. Tu as beau dire, c'est illogique, cet homme-là est mauvais, Dieu dira, il faut pardonner. Tu as beau dire, ah, ma femme a tout cassé, divorce. Non, Dieu dira, le divorce, ça n'existe pas chez les enfants de Dieu. Il faut servir à Dieu le plat qu'il aime. Et ce plat-là, c'est sa parole. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est servir à quelqu'un ce qu'il aime. Vous savez, quand tu es invité quelque part, il y a parfois les gens qui t'invitent qui se renseignent auprès de ta femme ou bien auprès de ton mari pour savoir ce que tu aimes. Parce que c'est ce que tu aimes qui te plaira. Bon, renseignons-nous aussi sur ce que Dieu aime. On va trouver le renseignement où? Dans la Bible. Ah oui, bien-aimé. Pas dans la logique humaine, pas dans les raisonnements. Pas dans le titre que tu as, pasteur, prophète ou je ne sais quoi. C'est dans la Bible que se trouvent les renseignements sur Dieu. Et après, on lui amène ce qu'il aime. Même si tu es hyper convaincu que c'est toi qui as raison, mais bon, puisque c'est Dieu qui va dîner, je lui amène l'obéissance à la Bible, l'obéissance à l'amour. L'obéissance au commandement d'amour, l'obéissance au commandement du pardon, l'obéissance au commandement de construction, l'obéissance... Oui, j'amène à Dieu ce que lui, il aime, bien-aimé. Et finalement, l'amour nous conduira au sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si on aime, on finira par mourir par sacrifice, par amour. On ne peut pas dire qu'on aime et on ne meurt pas. Ça n'existe pas. Arrêtons, bien-aimés, de sauver nos vies. Arrêtons de servir Dieu pour des logiques humaines, pour des raisons humaines. Servons Dieu par amour et ce service-là nous conduira à la mort. Vous imaginez des gens qui ont été remplis de puissance comme Paul dire... Juste, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Bien-aimés, il ne s'intéresse même pas, il ne parle pas des résultats obtenus. Il dit seulement, ah, c'était dur, mais je suis resté fidèle au Seigneur. C'est ça qui est impressionnant. Hein? Paul, c'est ça sa joie. Bien-aimés, il y a des versets qu'on lisait autrefois. Bon, on acceptait ces versets, mais on ne comprenait pas totalement. Mais quand tu fais un certain parcours dans le Seigneur, tu commences à comprendre que oui, ce n'est pas facile de garder la foi jusqu'au bout. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment aimer Dieu. Pour garder la foi, il faut aimer Dieu. Quand on était jeune chrétien, qu'on te dise que tu peux perdre la foi, tu trouvais ça absurde, c'est impossible. C'est impossible. Il y en a même qui, quand ils se convertissent, ils disent « je ne vais plus me marier ». Mais bon, on leur donne à peu près 6 mois de réflexion, quoi. Tu sens que tu aimes. On veut dire ceci, Jésus. Mais avec le parcours, on voit, ah, je comprends le verset de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Eh bien, comment s'armer? Il faut s'armer d'amour pour le Seigneur. C'est ça, la force que tu auras pour aller jusqu'au bout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Les gens se moqueront, les gens critiqueront. On dira, oui, c'est le chrétien de la famille, mais c'est le plus pauvre. Mais toi, tu aimes le Seigneur. On dira, oui, il a 50 ans, mais il n'a pas de maison encore. Mais toi, tu aimes le Seigneur. On dira, oui, il a 60 ans, mais il n'a pas une Rolex. Mais toi, tu aimes le Seigneur. Bien-aimé, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qui t'amènera jusqu'au bout. Les autres choses disparaîtront. Les maisons, les voitures, le succès des pasteurs, tout ça, ça disparaîtra. Le succès des musiciens. Nous, on a un certain âge. On en a vu avoir du succès et tomber. Ils n'ont plus rien aujourd'hui. On en a vu avoir du succès dans la vérité. Et aujourd'hui, ils ont du succès dans le mensonge totalement. Totalement. Ce qui est important, c'est aimer le Seigneur, quoi. Les trois choses, l'espérance, la foi, l'amour, trois choses demeurent. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, c'est ce qui doit nous motiver aimer le Seigneur. Et comment on va l'aimer? En recevant son amour, en comprenant qu'il nous a aimés. Et en recevant cet amour, nous aussi, on va l'aimer. Amen. Prions le Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta parole qui nous apprend, Seigneur, que nous ne pourrions tenir que par amour pour toi, Seigneur, comme notre frère Paul, comme notre Seigneur Jésus, qui à l'âge de 12 ans est resté encore plus de 3 jours dans les cérémonies du temple parce qu'il faisait les œuvres de son Père. Alléluia. Nous voulons imiter Jésus dans l'amour pour toi, Père. Nous voulons imiter Paul qui disait, il se met en peine de rien pourvu qu'il accomplisse la mission qui lui a été donnée, pourvu qu'il achève la course. Oh Seigneur, nous voulons imiter Paul qui dit que toutes ces choses, je les ai considérées comme pertes à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Oh Seigneur, que nous puissions t'aimer plus que tout, au point de nous laisser mourir parfois pour que la résurrection se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous venons prier que tu ouvres nos cœurs et que nous soyons attentifs à ton amour. Que nous puissions pas nous créer nous-mêmes un amour pour toi. Que l'amour que nous devons avoir pour toi vienne de ton amour pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, viens nous aider, Seigneur, à t'aimer plus que tout. À t'aimer plus que tout, Seigneur. Et rempli de cet amour, aller jusqu'au bout. Marcher contre vents et marées jusqu'au bout, Seigneur. Nous t'aimons plus que tout, Seigneur, c'est ça. De t'aimer plus que tout, c'est ça que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas servir à cause des résultats. Nous ne voulons pas servir pour montrer que nous savons travailler pour toi. Nous ne voulons pas servir pour nous satisfaire nous-mêmes. Nous ne voulons pas servir quand tout est beau. Nous voulons servir aussi quand nous sommes visés. Nous voulons servir aussi quand il y a l'eau et trouble. Nous voulons servir aussi dans la bonne comme dans la mauvaise réputation. Nous voulons te servir, Seigneur, parce que notre vie t'appartient. Alléluia. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'aime,
je t'aime,
yeah.
Plus que tout,
que tout,
je t'aime,
plus que tout,
je t'aime,
je t'aime.
Oh. Seigneur,
je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Oh, je t'aime.
Je t'aime.
Hey.
Puisque tout.
Que tout,
je t'aime.
Oh,
Seigneur, oh, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie. te donne ma vie.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Oh, je t'aime.
Je t'aime.
Yeah.
Plus que tout.
Amen, amen, amen.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Oh, entre tes mains.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, j'en reprendre rien.
Dans tout,
oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Oh,
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Oh, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oh papa.
Entre tes mains, j'abandonne tout avec ton
nom. Oh merci Seigneur de prendre tout. Au nom de Jésus-Christ.